France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Merci, Sandin de Hausi.
Halliam Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
Le métier de Céline Bardet, c'est d'aller sur les zones de guerre, recueillir des preuves de viol, de documenter ses crimes et de tout faire pour traduire en justice leurs auteurs. C'est rude, c'est violent, c'est partout où il y a une guerre, c'est un livre aussi. On en parle ensemble dans moins d'une minute. Les ambitions électriques s'éloignent, le retour en vainqueur du moteur thermique. En Europe, c'est le monde à l'endroit de Frédéric Seyss. Est-ce qu'enfin un jour, on verra la fin des travaux de la Sagrada Familia à Barcelone? Eh bien, pas tout de suite, mais ça avance.
C'est un moment très important, parce qu'on achève ainsi une autre étape, la construction des 6 tours centrales.
Allez, une visite de chantier avec Mathieu de Taillac autour de 18h42. Sous les radars, Guillaume Auda a trouvé les déchets plastiques des Anglais, mais où sont-ils? Eh bien, en Indonésie, figurez-vous. Et juste avant 19h, Ilana Mouriouceff relie un Romain cubain et nous rappelle au passage ce que veut dire l'absence de liberté à Cuba. Ça s'appelle écrire le monde. Le monde est vaste, les amis, et on n'a qu'une heure. Allons-y.
Ces femmes m'impactent dans tous les sens. Quand j'avais quitté le Congo, je suis revenu à cause de ces femmes. Ça m'a bouleversé. Je suis non seulement admiratif de ces femmes, mais je considère que ce qu'elles font dépasse tout ce qu'on peut imaginer.
C'est Denis Mukwege, évidemment, qui parle, l'invité de Sonia De Villers dans le Grand Portrait. C'était il n'y a pas très longtemps, le 16 septembre, à l'occasion de la sortie de son film Mungaga, enfin le film de Marie-Hélène Roux. Bonsoir Céline Bardet.
Bonsoir.
Si on a voulu entamer notre discussion avec les mots de Denis Mukwege, d'abord c'est parce que c'est un homme qui se bat sans relâche pour les femmes depuis des années, les prix Nobel de la paix pour les réparer. C'est aussi quelqu'un que vous connaissez bien. Il a préfacé également votre livre. Et puis aussi, il aide à avoir un peu d'optimisme. Et le sujet qu'on va aborder toutes les deux ensemble a besoin de cet optimisme. Là. Vous êtes juriste, vous êtes enquêtrice pénale internationale, vous avez fondé une ONG qui s'appelle We Are Not Weapons of War, nous ne sommes pas des armes de guerre, vous traquez les témoignages de viols de guerre et vous faites de votre mieux, donc je le disais, pour traduire leurs auteurs en justice. Le livre s'appelle Le bruit du monde me fait un peu trop mal certains jours, c'est publié chez Studio Fact, écrit d'ailleurs avec Jacqueline Rémy. Et évidemment la première chose qui m'a sauté au visage en vous lisant, c'est « Je passe ma vie à tirer des sonnettes d'alarme et j'ai l'impression que parfois ma vie résonne dans le vide tant j'ai le sentiment de ramer dans un monde parallèle ». C'est ça votre vie, Céline Bardet, sérieusement? C'est de taper des coups d'épée dans l'eau, tout le temps, partout?
Un peu, c'est-à-dire qu'il y a... Enfin, dans le livre, d'ailleurs, j'ouvre là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a tout le travail quand on va à New York, aux Nations Unies, et qu'on parle aux États et qu'on vient raconter les mêmes choses qui viennent du terrain, sur lequel je passe énormément de temps, et que là, on a l'impression qu'on n'est pas... Oui, je pense qu'on n'est pas vraiment entendu, pas très écouté, quoi.
Votre livre, il est rude. Il est plus que rude, il est anxiogène. On va pas mentir aux gens qui nous... ni se cacher derrière notre petit doigt. Vous racontez des choses qui sont terribles. Est-ce que c'est aussi ça, au fond, comme c'est comme ça que vous voulez qu'on en sorte, bien conscient de ce que charrie cette guerre? Pétrifié, c'est un mot que vous employez d'ailleurs, lorsque vous vous adressez aussi à une tribune. Vous voulez pétrifier un moment les gens pour qu'enfin on s'en rende compte?
Alors, il y a toujours le prisme de chacun, parce que moi, pour être très honnête, en plus, imaginez-vous bien que j'ai fait attention
à ce que vous avez raconté.
Ouais,
bien sûr, j'imagine
plus
aussi.
Légère,
Mais on va y venir d'ailleurs, parce qu'il y a des moments qui sont aussi optimistes par ailleurs.
Oui, voilà.
Il y a des jolis portraits, il y a des jolies femmes dans ce livre.
Oui, voilà, parce que l'idée c'était aussi d'abord de faire attention aussi. L'idée c'est pas d'être anxiogène non plus, mais en revanche c'est quand même aussi de dire les choses. C'est important d'expliquer c'est quoi le viol de guerre. Il faut qu'on comprenne ce que c'est. Et c'est vrai que j'ai voulu aussi, ce livre, il est entièrement consacré à aux histoires des personnes que j'ai rencontrées, y compris certains auteurs de crimes aussi. Mmh. Et c'est de ça dont j'ai voulu parler. Et raconter un peu toutes ces zones dans lesquelles je travaille et ces histoires à elles et eux.
Est-ce qu'on sait expliquer quand même le caractère exponentiel? Parce que vous le dites très bien, ça a toujours existé, le viol de guerre, qu'on le veuille ou non, dans n'importe quelle guerre, y compris les premières. Est-ce qu'on sait expliquer le caractère exponentiel? Pourquoi c'est devenu une arme systématique aujourd'hui? Et quand on dit systématique, c'est partout dans le monde, y compris nos guerres proches. On y viendra, à la guerre en Ukraine, mais là aussi, ça marche de cette façon. Est-ce qu'on explique ça?
Systématisme. Ouais, on l'explique pas. Alors, en fait, il y a eu cette bascule dans les années 90, la violence sexuelle a toujours été là. mais il y a eu vraiment cette bascule dans les années 90 avec le conflit en Bosnie-Rwanda où le viol est vraiment devenu un outil. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a théorisé cette arme ? Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant comme question parce que moi-même, je ne me la suis jamais posée. Mais oui, je pense que qu'on s'est aperçu que c'était une arme qui était efficace et effectivement, et ce qui est important de dire, c'est qu'en 2024, le rapport du secrétaire général des Nations Unies annonce 25% d'augmentation des viols dans les conflits. Donc, effectivement, il y a quand même un problème, parce que clairement, on n'a pas une réponse qui est adéquate sur ce phénomène, et on le voit partout.
L'Ukraine, c'est un cas intéressant, d'abord parce qu'il est proche de nous, mais aussi, au fond, dans le vocabulaire. Et y compris le vocabulaire qu'emploie Vladimir Poutine dans un discours, on s'en souvient de ce moment. Il dit que ça te plaise ou non, ma jolie, il faudra supporter. Fermez les guillemets. On entend des gens crier « L'Ukraine est une pute ». Et quand on considère donc que ce pays n'a pas d'identité, puisqu'il n'existe pas, il est censé être russe, que son territoire apprend la Russie, on a l'impression déjà dans les mots, y compris de Poutine, que c'est un blanc-seing au soldats pour violer des femmes. En fait.
Mais bien sûr, mais ça en a été un, et c'est pour ça que je rappelle cette histoire, et qu'il a mentionné dans une conférence de presse, et c'est pour ça, en fait, ça montre à quel point, oui, c'est une vraie je sais pas comment dire, j'allais dire idéologie, c'est pas le bon terme, mais en fait propagande, et clairement on donne un blanc-seing, parce que bien sûr qu'il y a personne, c'est très très rare, on pose cette question par exemple, c'est très très rare que quelqu'un, je sais pas, chef des armées, va dire à ses soldats, écoutez, bien allez sûr. Violer. C'est pas comme ça que ça se passe, mais on vous donne un blanc-seing, on vous encourage à le faire. C'est ça qui se passe.
Et en même temps, là quand même les preuves sont là. Est-ce que, j'ai presque envie de dire que c'est plus facile que ça a pu l'être à un autre moment. Les preuves sont là, les vidéos sont là. Peut-être aussi que certaines femmes parlent plus facilement que ça n'était le cas dans des cas précédents. Mais pourtant ça existe. Ils le savaient aussi que les preuves sont là. Ils les laissent partout derrière
bien
eux, de
sûr.
Toute façon.
Mais voilà, mais exactement. Mais ils les laissent d'abord parce qu'ils sont convaincus de leur impunité et finalement, ils n'ont pas tellement tort, parce qu'il y a quand même une grosse impunité sur tout ça. Et pourquoi on mentionnait au début Denis Mukwege. Denis Mukwege, je le connais depuis très longtemps. Je suis très fière qu'il ait fait cette préface. Et dans la préface, il parle que de ça, de la justice. C'est-à-dire que lui, il répare, il soigne. Mais il dit, c'est important la justice. Et la justice, en fait, on ne fait que en parler. On ne parle que de la lutte contre l'impunité. C'est ce qui est le moins financé, c'est ce qui est le moins soutenu. Or, tant qu'on laissera cette impunité, en fait, on recommencera, tout recommencera, et c'est ce qui se passe, tout recommencera et tout augmentera. Et les victimes, je précise, elles ne parlent que de ça. Elles ne parlent que de justice.
Et elles vous disent d'ailleurs, mais comment ça se fait que vous n'en parlez, enfin, quand je dis vous, c'est pas vous, mais comment ça se fait que vous, les Européens, vous n'en parlez jamais?
Bah oui.
Et au fond, les bras leur en tombent, qu'on n'y vienne jamais.
Oui, parce que ça concerne quand même une grande partie du monde, et ça, c'est des questions qu'elles ont. Et c'est pour ça que j'ai aussi voulu raconter leur histoire. Et il y a les preuves, et donc il faut continuer à avancer là-dessus. Ce qui est difficile, c'est l'identification des auteurs, par exemple. Ça, c'est le plus difficile. Mais là, aujourd'hui, nous, on a notre outil digital dans le Nord Nigeria, là, et on a plein d'éléments d'identification des auteurs.
Votre Uber des viols de guerre, comme vous l'appelez très joliment.
Du viol de guerre. Non, mais n'empêche que ça fonctionne et que c'est important d'identifier les auteurs et puis surtout d'aller sur les donneurs d'ordre.
C'est une plateforme, il faut le dire aux gens qui nous écoutent, qui est très internationale. C'est une plateforme où on peut rentrer à la fois ce qui nous est arrivé quand une femme a été violée, on peut rentrer aussi des preuves, des éléments de preuve, et ça vous fait, un vrai dossier. Je le disais, Céline Bardet, surtout quand la lassitude vous gagne, en fait, vous savez vous souvenir des moments qui ont été des beaux moments. Je pense par exemple à cette jeune femme qui s'appelle Mildred, on est au Zimbabwe en 2015, c'est l'époque où Mugabe est encore là, violée à de multiples reprises à son bureau. Évidemment, son mari s'en va, c'est très souvent le cas avec l'enfant qu'elle a déjà eu, et elle se bat, cette femme. Et aujourd'hui, la fille qu'elle a eue, la fille issue de ce viol, elle a été suivie, elle a fait des études, ces études ont été financées, elles existent, ces histoires-là, y compris parce que Mildred s'est battue, elle y a été devant les tribunaux avec vous, mais pas seulement.
Oui, et nous on a financé les études de Vimbai, sa fille, et moi j'ai envie de raconter cette histoire aussi, parce que imaginez qu'elle, à l'époque, elle avait un petit garçon de 18 mois qu'elle n'a jamais revu, parce que son mari est parti, parce qu'elle a été violée. Donc je veux dire, il faut quand même prendre conscience de ce que vivent les gens, et il y a des gens qui se battent, et elle a voulu se battre en justice, et elle, c'était important pour elle, et aussi pour le montrer aux autres. C'est pour ça que la justice, c'est important. Ou quand je raconte Svieta en Bosnie, qui a été métamorphosée physiquement après le procès, il y a quand même un impact qui est important. Donc la justice, elle dit les choses, elle pose les choses et elle redonne une dignité aux gens.
Après, Céline Bardet, il y a aussi le non-dit derrière le non-dit, et tout le monde vous en parle parce que moi aussi, ça m'a tellement scotché en le lisant. D'abord, vous expliquez que la moitié des victimes de crimes sexuels comptabilisées en Ukraine sont des hommes.
Ouais.
La moitié. Je voudrais qu'on s'arrête vraiment sur ce chiffre-là. En Libye, vous l'aviez déjà documenté dans un documentaire qu'on a eu l'occasion de commenter ici même. Vous dites aussi, les donneurs d'ordre sont parfois des donneuses d'ordre. ça se passe au Rwanda, ça se passe en Serbie, ça se passe partout. Là aussi, il faut tordre le cou à cette idée-là. Ça arrache un peu de le dire.
Oui,
mais ce sont aussi des crimes de femmes.
Mais moi, je suis assez obsédée par ça parce que, en fait, c'est ce que je vois sur le terrain. Donc, la question des hommes, ça fait très longtemps qu'on en parle et on commence à en parler plus aujourd'hui. L'Ukraine, la majorité des violences sexuelles commises en Ukraine aujourd'hui, ce sont les hommes. Mmh. Et ils parlent. Et c'est important. Et sur la question des donneurs d'ordre aussi, j'avais envie de parler de ça parce que Pauline au Rwanda, c'est elle qui a ordonné les viols, c'est-à-dire des viols qui ont été des outils du génocide, hein, reconnus comme tels pendant le génocide à l'encontre des Tutsis.
Mais elle a été accusée. Elle a été jugée.
Oui, hein, elle a été jugée.
Non, mais à un moment, enfin, c'est aussi important.
Oui, c'est important.
Ça a été au bout. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous arrivez pile au moment où, je crois que j'ai oublié la dépêche là-haut, c'est dommage, mais où une femme en France, une revenante de Syrie,
on travaille dessus,
va être
on
jugée exactement pour génocide, pour avoir eu des femmes en esclaves et,
exactement
et qui
c'est très important ça
et
c'est très important
ouais. Et ce sera le premier cas ce sera vraiment la première on est le 8 octobre Céline Bardet, on peut pas terminer cet entretien sans en parler puisque vous occupez aussi des crimes sexuels commis par le Hamas le 7 octobre au moment de l'attaque, vous étiez déjà venue ici pour en parler et là aussi c'est pas seulement le silence des victimes, il y a beaucoup d'autres choses qui vous freinent dans votre travail également et c'est ce que vous dites également dans votre livre.
Oui, j'ai voulu en parler parce que y a un contexte qui était très difficile en Israël sur la documentation de ces crimes. Il y a le fait aussi que ces femmes, ces femmes sont mortes. Il y a eu aussi la négation de la question des viols commis le 7 octobre. Donc tout ça a été pour moi un marqueur parce que je me suis posé la question, et Israël ou pas Israël ? En fait, la question, c'est pas Israël. La question, c'est quand à un moment, on commence à se dire que la voix d'une victime n'est plus la même que celle des autres, là, ça veut dire qu'on est en train d'en prendre un chemin qui n'est pas du tout bon. Donc ça, moi, ça m'a profondément marqué. Et encore une fois, on compte les morts, mais on compte pas les viols, en fait. Donc il faut redonner, je dis, faire parler les cendres en Israël, il faut redonner à l'histoire et aux gens ce qui leur est arrivé, ce qui s'est passé, leur propre histoire.
Eh bien, écoutez, accrochez-vous, mais allez-y. Le bruit du monde me fait un peu trop mal certains jours. Signé Céline Bardès, c'est avec Jacqueline Rémy, qui vous a un peu tenu la main et qui est journaliste et qui est votre amie, aux éditions Studio Fact. Et je vous remercie beaucoup d'avoir passé un jour dans le monde. La suite, ce soir, et comme chaque soir, c'est Frédéric Cesse qui remet le monde à l'endroit.
L'écologie est-elle passée de mode en Europe ?
Allez, juste après ça.
What's up, Dolce?
Hey, girl.
You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
Has it really?
Probably since, like, your last EP, All the Places You'll Go.
Oh, wow. It's been a minute,
I've been getting some calls.
Oh.
People are a little bit worried about you.
Not worried.
And I know that I was kind of that outlet for you, so...
You were.
Why don't you just tell me what's been going on?
Okay. Remember old dude from 2019, nice clean nigga, did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wifey. I was so confused, what should Dolce do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the zoom. Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slick back till I slip back. Got my lick back, turned a nigga to a knick-knack. I moved on, dropped a couple of songs, and then I went and got signed. Now it's 2021.
Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this guy cheated on you and...
Fuck it. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in a gang, but I'm always on set. Wristwatch, drip drop, label want the TikToks. Now I'm making TikTok music, what the fuck? I need a cleanse, need a detox, but we ain't got time to stop. The charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making money. My grass is really green and honestly, I can't even fucking cap no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot.
By a lot, you mean drugs?
I wouldn't.
Drugs?
No, it's a...
No?
It's a natural plan.
No, I'm not judging.
I'm not an addict.
I'm just saying.
I don't think...
You wanna talk about it?
I mean, fuck, I like pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood, I like doing Hollywood shit, snorted Bollywood. What can I say? The shit works, it feels good, and my self-worth's at an all-time low. And just when it couldn't get worse, my ex crashed my place and destroyed all I owned. Whoopsie, made a oopsie, $100,000 oops made me loopy. I ain't a killer, but don't push me. Don't wanna have to turn a nigga guts into soup bean.
Whoa. Okay, Dolce. We don't wanna revert back into our old ways. So we're gonna try a breathing exercise, okay?
All right,
when I breathe, you breathe, all right?
Let's go.
Doshi, Denial is a River, trois fois nommé au prochain Grammy Awards et dans la playlist de France Inter également, bien sûr. Le monde à l'endroit, c'est Frédéric Saïs.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Et si le moteur à essence était à nouveau en odeur de sainteté ?
On le croyait mort et enterré, c'est vrai, rangé parmi les inventions nocives du passé. D'ailleurs, l'Union européenne en a interdit la vente à partir de 2035. Plus aucune voiture neuve, diesel ou essence, sur le marché. Et pourtant, voici que ce bon vieux moteur à explosion connaît un retour en grâce. Débat explosif d'ailleurs cet après-midi au Parlement européen. La droite nationaliste a mis le sujet à l'ordre du jour. Il faut revenir sur cette interdiction à tonner. Un eurodéputé polonais, bannir les moteurs à essence, c'est ruiner l'Europe. Alors cette position n'est pas nouvelle, ce qui est nouveau, c'est qu'elle s'exprime de manière aussi décomplexée. Le chef du gouvernement allemand n'est pas en reste, le tout électrique en 2035, c'est une mauvaise décision, estime Friedrich Merz, le dirigeant conservateur, rencontre demain les constructeurs automobiles pour recueillir leurs doléances. Plus édifiant encore, la Commission européenne semble prête à assouplir cette règle, cette interdiction du moteur thermique, qu'elle a pourtant elle-même imposée il y a moins de 5 ans, comme s'il y avait une sorte de retour de bâton, comme si l'écologie était passée de mode.
Alors l'Union européenne pourrait donc annuler cette interdiction des moteurs à essence et diesel sur les voitures neuves.
Elle envoie en tout cas tous les signaux en ce sens ces derniers jours, Fabienne. Alors non pas une annulation pure et simple, ce serait trop gros, mais la Commission pourrait par exemple repousser le délai limite au-delà de 2035. Elle pourrait aussi ouvrir la porte à d'autres technologies, carburant de synthèse, hydrogène, etc. Il y a donc une brèche et les adversaires de la voiture électrique s'y engouffrent. Sous pression, la Commission européenne accélère et avance d'un an le point d'étape qui était prévu pour 2026. Alors, sous pression de qui ? Eh bien, de l'Allemagne et de l'Italie. D'abord, dans le pays de Mercedes et de Ferrari, compliqué d'abandonner le vrombissant moteur thermique et l'imaginaire qui l'accompagne. C'est le grand argument des constructeurs. D'ailleurs, les consommateurs n'adhèrent pas aux voitures à batterie. Aujourd'hui, seuls 3% du parc automobile européen, c'est de l'électrique. Le secteur automobile est par ailleurs pris en étau. D'un côté, les droits de douane américains qui rognent les marges. De l'autre, la concurrence chinoise qui grignote les parts de marché. Et au milieu, les voitures européennes qui ont du mal à embrayer.
Et cela, ce sont des raisons économiques, Frédéric. Mais derrière ce possible retour au moteur à essence, il y a aussi des raisons politiques.
Élection européenne l'an dernier, les écologistes ont perdu un tiers de leurs élus. À l'inverse, progression marquée pour les partis conservateurs et nationalistes qui fustigent l'écologie punitive, fin de guillemets. Voilà pourquoi Ursula von der Leyen a mis son clignotant à droite. La présidente de la Commission veille à se maintenir au milieu des équilibres politiques. Autre facteur, Donald Trump, il décomplexe les climato-sceptiques de tous bords quand il appelle à forer toujours plus de pétrole, quand il explique que le réchauffement climatique c'est un canular, eh bien il ouvre la fenêtre à toutes les positions les plus radicales partout dans le monde. Et en Europe, on n'a pas de pétrole, mais on a des idéologues similaires. Le problème, c'est qu'une politique aussi majeure que celle de la transition verte, c'est comme la conduite, elle ne s'accommode pas vraiment de coups de volant.
Merci beaucoup Frédéric Saïs, tous les soirs, dans Un jour dans le monde, le reportage à suivre. Le reportage qui est à Barcelone ce soir devant la Sagrada Familia, la basilique monumentale, monument national de Catalogne, chef-d'œuvre de l'architecte Antoni Gaudí et surtout, c'est une recommandation de Mathieu de Taillac, notre correspondant en Espagne. Ne demandez pas à un Barcelonais quand les travaux seront finis. Il n'est pas sûr que ça le fasse rire. C'est parfois à se demander si la Sagrada Familia n'est pas née avec des échafaudages de partout. C'est pas demain la veille qu'ils disparaîtront pour ce qui est des tours et de la façade, encore 10 ans au moins. Mais tout de même, prenez un casque, prenez des chaussures de chantier aussi et notez bien pour le 100e anniversaire de Gaudi, le point culminant sera inauguré, la tour du Christ et sa croix transparente et visitable seront dévoilées au monde, ce sera le 10 juin 2026, il y aura même une grand-messe, peut-être même avec le pape s'il est disponible, figurez-vous. Le reste, c'est donc Mathieu de Taillac qui raconte.
Vu d'en bas, cela ressemble à n'importe quel chantier. L'équipe de la Sagrada Familia distribue aux journalistes gilets, charlottes et casques rouges. Et puis on prend un peu de hauteur, 54 mètres pour être précis, en empruntant deux monts de charge. À la sortie, Mauricio Cortés nous accueille. C'est l'architecte spécialiste des terminaisons. Autrement dit, des objets qui concluent les tours de la Sagrada Familia, les statues des évangélistes, l'étoile de la tour de la Vierge et en l'occurrence, la croix de la tour du Christ. Mauricio Cortés.
On se trouve sur une plateforme de travail que l'on a installée pour réceptionner et assembler les modules qui vont former la croix. Ce que vous voyez, c'est le bras inférieur qui sera la base sur laquelle on placera un centre et les quatre bras de cette grande croix en trois dimensions.
De la céramique de porcelaine pour la couleur blanche et du verre, comme le voulait Antoni Gaudi, le génie de l'architecture catalan qui dessina les plans et les maquettes du grand projet de sa vie, une croix en partie transparente donc, de laquelle quelques happy few pourront contempler les vues panoramiques. Mauricio Cortés.
La croix a aussi un espace intérieur. C'est plus une habitation qu'un pinacle. C'était un vrai défi. Il fallait la faire la plus svelte possible, parce que c'est la silhouette de la basilique. Mais il fallait aussi faire un espace qui soit un minimum confortable.
Un sacré défi, car il s'agit effectivement d'élever l'édifice vers son point culminant à 172 mètres et demi. L'architecte directeur Jordi Faoli est le dernier successeur de Gaudi. Depuis 35 ans qu'il travaille sur le chantier, il a une certaine perspective historique sur la phase actuelle de la construction.
C'est un moment très important. Très important parce que nous construisons l'élément le plus haut de la Sagrada Familia, qui en est aussi son centre. Très important du point de vue architectural et du point de vue symbolique, parce qu'on achève ainsi une autre étape, la construction des six tours centrales.
Et à un moment important, date éminemment symbolique, la Tour du Christ et son jeu de lumière seront inaugurés au 100e anniversaire de la mort de Gaudi. Les instructions de l'architecte originel semblent presque paroles d'évangile. Le président de la fondation, chargé de la construction, en conférence de presse, répondait à une question sur le parvis et son grand escalier qui suppose de détruire des immeubles du quartier. Estelle Gams.
Le parvis n'est pas négociable. C'est le projet d'Antoni Gaudi. Et comme nous sommes ses héritiers, nous devons revendiquer le parvis coûte que coûte.
L'architecte Jordi Faoli explique les choses avec un peu plus de diplomatie.
Tout ce que lui a dessiné a une qualité, une beauté qu'il serait absurde de ne pas respecter. Il peut y avoir des aspects de la liturgie qui est un peu changé, ou des demandes de la ville que l'on devrait prendre en compte. Mais en principe, ne pas suivre la voie que lui a tracée, ce serait de la folie.
En route donc vers le sommet, les 172 mètres 50 décidés par Gaudi, parce que l'architecte avait un chiffre fétiche, 7,5, à mi-chemin entre le 7, associé à Dieu, et le 8, symbole de l'infini. Toutes les dimensions en sont des multiples, de la distance entre les colonnes, 7,50 mètres, jusqu'à la longueur de la basilique, 90 mètres. 172,5, c'est précisément le dernier multiple de 7,5, inférieur au sommet naturel de la ville, la montagne de Montjuïc, car pour l'architecte, l'œuvre de l'homme ne doit pas dépasser celle de Dieu.
Voilà, la table du studio doit faire 3,50 m, 4 m. Je pose ça là. Je ne sais pas si ça va nous porter chance ou pas, Mathieu de Taillac, pour le reportage. Merci beaucoup. La suite, c'est Guillaume Audat qui remonte à la surface. L'actualité internationale passée sous les radars.
Voilà, et direction le Burkina Faso où la junte s'en prend aux ONG et enferme les humanitaires.
Et Ilana Mourioussef, pardon. Ilana, comme tous les mercredis, écrire le monde.
Oui, et Cuba, qu'il aime la quitte, le destin difficile des exilés avec le roman de Leonardo Padura, Poussière dans le vent.
Allez, une chose après l'autre, le tour de la planète, ce n'est pas fini. Savourez ce duo génial, Lady Gaga et le regretté Tony Bennett à Get a Kick Out of You. C'est du Sinatra, bien sûr.
Et tu me hais.
My story is much too sad to be told. But practically everything leaves me totally cold.
The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old and we, and I suddenly turn and see your fabulous face.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true? Yeah, I get a kick out of you.
Me? Some they may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me
terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me.
I get a kick, though it's clear to see you obviously don't adore me.
I get no kick in a plane flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you.
Hyper fan de ce duo, Lady Gaga et Tony Bennett, I Got a Kick Out of You. Merci beaucoup à Djoubaka, qui est le programmateur musical d'Un Jour dans le Monde. À 18h49, Guillaume Audat est là.
Has uncovered that UK households throw away billions of pieces of plastic.
Et Guillaume, chaque année au Royaume-Uni, des milliards de déchets plastiques sont jetés à la poubelle, mais seulement 12% sont recyclés. Et une ONG tire la sonnette d'alarme.
Oui, ça va plus loin au sens propre comme au figuré d'ailleurs, parce que la plupart de ces déchets plastiques, en plus d'être si peu recyclés, 12% à peine, eh bien ces déchets sont expédiés loin, très loin du Royaume-Uni, essentiellement dans les pays en voie de développement, ceux d'Asie particulièrement. Sur la seule première moitié de l'année 2025, dévoile cette ONG, Londres fait exploser ses exportations de plastique usagé. Elles ont bondi de 84%, notamment en direction de la Malaisie et de l'Indonésie, où l'on retrouve dans de petits villages modestes des montagnes de bouteilles, de sacs poubelles et autres emballages, et qui les trient, ces déchets, et bien des familles à main nue, au péril de leur santé, naturellement de l'environnement, pour une bouchée de pain évidemment. L'Union européenne prépare une interdiction de ce type d'envoi à l'horizon 2026, mais le Royaume-Uni, qui ne fait pas partie de l'UE, refuse de suivre. Exporter, ça coûte moins cher que recycler. Certaines ONG appellent ça le colonialisme du déchet.
L'ONG IMSO, dont le siège est à La Haye, aux Pays-Bas, intervient dans notre pays depuis 2019.
L'homme que vous entendez, c'est le ministre de la Sécurité du Burkina Faso. Il est en conférence de presse et il justifie
l'arrestation
de 8 membres d'une ONG internationale, dont 2 Français.
Voilà, arrestation et tous suspectés d'espionnage au profit d'une puissance étrangère. 4 Burkinabés, 1 Malien, un Tchèque et 2 Français sous les verrous. INSO, c'est le nom de cette organisation humanitaire. Elle opère au Burkina depuis 2019. Une ONG étrangère dirigée par des étrangers. Là, je cite le ministre qu'on a entendu, qui collectait et fournissait des informations sensibles, préjudiciables à la sécurité nationale. L'accusation est lourde dans ce pays du Sahel, dirigé par une junte militaire. L'espionnage est considéré comme un crime contre la sûreté d'État. Il peut entraîner de longues périodes de détentions administratives, suivies de procès à huis clos, expéditifs généralement, et des peines de prison allant jusqu'à la perpétuité. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, ce régime kaki traque toute forme d'ingérence occidentale, française en particulier, expulse des diplomates, des soldats, des ONG sur fond de lutte contre le djihadisme. Le Burkina du capitaine Traoré entretient une paranoïa sécuritaire qui légitime son tour de vis autoritaire, d'abord au détriment de ses opposants. On ne sait pas dans quelles conditions les membres de l'ONG INSO sont détenus. Ce qu'on peut supposer en revanche, c'est que les 2 Français emprisonnés servent de monnaie d'échange dans le bras de fer sévère qui se joue entre Paris et Ouagadougou.
Bueno, en ese vehículo viajaba el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por eso es que denuncia
une tentative d'assassinat, enfin ni plus ni moins, c'est ce que dénonce la présidence équatorienne. Message relayé sur toutes les télévisions, le convoi du chef de l'État a été attaqué.
Attaqué à coups de pierre, Daniel Noboa, le président équatorien. Heureusement, il était à l'intérieur de sa voiture blindée. Les images restent impressionnantes. Lors d'une visite officielle dans un petit village, et comme surgit de nulle part, des dizaines de manifestants se mettent à lancer tout à coup toutes sortes de projectiles au passage du cortège. La présidence signale des traces de balles sur certains véhicules, parle en effet de tentatives d'assassinat. Une enquête devra le démontrer. C'est en tout cas le signe qu'en Équateur, en ce moment, la tension atteint des sommets. Depuis 3 semaines, le pays se soulève contre la hausse brutale du diesel. Route bloquée, affrontement, déjà 1 mort, 150 blessés. La plus puissante organisation indigène d'Équateur accuse le président conservateur Noboa d'écraser les plus pauvres sous couvert de lutte contre les cartels.
Guillaume Oda, merci beaucoup. Le mercredi, Ilana Mourioussef lit les auteurs qui regardent la planète.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et Ilana, il y a quelques jours, on apprenait que l'opposant historique cubain, José Daniel Ferrer, avait accepté de partir en exil à la suite de pressions exercées par les autorités de l'île. Ferrer, qui est en prison, a réussi à faire sortir une lettre que son épouse a authentifiée.
Et cette femme, elle s'appelle Nelva Ortega. On a pu la voir la semaine dernière sur la chaîne hispanophone NTN24 expliquer le choix de son mari.
Il a pris la décision de s'exiler pour les raisons suivantes. Des tortures et des menaces permanentes, comme jamais auparavant, dirigées contre lui, contre ses enfants, contre sa famille en général. En ce moment même, nous craignons pour sa vie. Nous savons que le fait d'avoir sorti cette lettre de prison peut entraîner des représailles contre sa personne.
Alors l'exil, c'est souvent la seule possibilité qui reste au Cuba, qu'il soit opposant politique ou pas. Alors j'aurais pu vous parler aujourd'hui de Reinaldo Arenas et de sa splendide autobiographie, Avant la nuit. Arenas et son destin tragique, révolutionnaire, persécuté en raison de son homosexualité, exilé de force aux États-Unis, atteint de dépression, malade du sida et enfin suicidé.
Mais finalement, vous avez choisi un écrivain plus contemporain qui reste à Cuba, envers et contre tout, et qui s'appelle Leonardo Padura.
Oui, Padura aurait pu partir, comme l'ont fait beaucoup de ses amis, d'autant qu'il a aussi la nationalité espagnole, mais il a décidé de rester. Il s'en expliquait en novembre 2021 au micro d'Arnaud Laporte sur l'antenne de France Culture.
Dans ces années 90, j'écrivais comme un fou pour ne pas devenir fou. C'est-à-dire que la littérature m'a sauvé du désespoir et m'a sauvé aussi de l'exil, parce que beaucoup de mes amis, de mes camarades de travail sont partis à ce moment-là. Et moi, j'ai décidé de rester parce que à Cuba, je pouvais écrire. Il nous manquait tout. L'électricité, les transports, la nourriture. Quelquefois, on n'avait pas de café, on n'avait même pas de rhum, on n'avait pas de cigares. Mais on avait ce qu'un romancier nécessite le plus, on avait du temps.
Alors 2021, cette année-là, Leonardo Padura est à Paris pour la promotion de son roman « Poussière dans le vent », finaliste de plusieurs prix littéraires. « Poussière dans le vent », c'est l'histoire de 8 amis, 8 profils d'exilés. Chacun essaie de mener sa barque loin de Cuba, chacun avec ses histoires sentimentales, ses engagements, ses mensonges et son amour pour l'île qui prend tantôt la couleur de la nostalgie, tantôt celle du rejet. Mais oublier Cuba, est-ce que c'est possible? Dans cet extrait, Irving, l'un des 8 de la bande, rentre au pays où l'attend un spectacle de désolation.
Les retrouvailles avec sa mère avaient été dévastatrices. Tout en elle s'était réduit, rétracté, comme si elle s'était consumée. Et Irving avait pleuré. Envahi par la culpabilité de ne pas avoir partagé avec elle ce qui était ses dernières années, peut-être ses dernières semaines. Mais ce n'était rien à côté de ce qu'il ressentit en revoyant son unique sœur, qui avait 4 ans de plus que lui et qui aurait pu passer pour la jumelle de sa mère. Prématurément vieillie, des cheveux blancs clairsemés, la bouche édentée et à moitié tordue depuis l'AVC dont elle avait été victime 2 ans plus tôt. Elle semblait à présent seulement bonne à proférer des lamentations et des plaintes, des griefs et des malédictions, des accusations et des regrets, le tout accumulé dans des phrases pâteuses. Une suite d'imprécations répétées, encore et encore. « 220 pesos, 220 pesos !» C'est ce qu'elle remâchait le plus, en référence au montant de sa retraite, l'équivalent de 10 dollars par mois. Sa mère et sa sœur avaient donc faim.
Merci à Victor Vasseur pour la lecture. Ce qui est surprenant, Ilana, c'est que Padura puisse rester à Cuba en écrivant des choses aussi difficiles.
Oui, cela m'a surprise aussi. J'ai donc posé la question à son éditrice française, Anne-Marie Métellier. Elle connaît extrêmement bien Cuba et elle publie Padura depuis ses débuts. Les livres de Padura, me dit-elle, ne sont pas interdits à Cuba. La réalité est plus subtile et peut-être plus perverse.
Dans ces années 90, j'écrivais comme un fou pour ne pas devenir fou. C'est-à-dire que la littérature...
C'est pas celui-là. Celui-là, on vient de le réentendre.
On vient de l'écouter.
Voilà. Mais ce qu'on attend là, c'est Anne-Marie Métayer, qui est donc la...
Qui est l'éditrice française de Leonardo Padura. Et qui, évidemment, suit de très près son travail, y compris en allant sur place quand c'est nécessaire.
Eh bien, écoutez, on l'écoutera peut-être une autre fois. Vous vous souvenez de ce qu'elle vous disait,
oui.
Anne-Marie Métayer, parce qu'on l'a pas. Donc, allez-y, vous en prie.
Ce qu'elle disait, c'est que les livres de Leonardo Padura ne sont pas interdits à Cuba, mais ils sont tirés à 1000 exemplaires. Mm-hmm. Si bien que, en fait, ils disparaissent dans la journée où ils sortent. Les quelques lecteurs qui ont la chance de pouvoir les acheter se précipitent sur eux, et puis ensuite, ils se les passent. Mais en tout cas, on ne peut pas le diffuser largement. Ce qu'elle disait aussi, c'est que les conditions de vie à Cuba sont extrêmement difficiles. Par exemple, vous pouvez être ingénieur de formation, avoir été cadre dans une maison d'édition et arriver à la retraite, et bien le montant de votre retraite ne vous permet même pas d'acheter deux douzaines d'œufs auxquels vous avez droit grâce au carnet de ravitaillement. Donc en fait, la situation économique, la vie pratique des habitants est totalement impossible. Alors tout cela, on le retrouve dans Poussière dans le vent, raconté avec la sensualité et l'humour féroce de Padura, car c'est bien connu, l'humour le plus drôle et le plus réussi, c'est celui qui accourt sous les dictatures et sous les régimes autoritaires, et avec cette denrée, au moins, pas de risque de pénurie. Voilà,
et en plus, c'est gratuit. Ilana Mor-Youssef, merci beaucoup. Vous reviendrez bien sûr la semaine prochaine, le 18-20, la suite. C'est le journal de 19h avec Florence Paracuelos. Juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefebvre.
Bonsoir à tous.
Et on attend 20h un peu dans le téléphone sonne.
Oui, Sébastien Lecornu va rendre compte de sa mission flash. Qui est prêt à participer à une plateforme commune? Qui est d'accord pour faire des concessions? Jean-Marc pose cette question. Pourquoi on ne fait pas un référendum sur les retraites?
01 45 24 7000 pour discuter avec nous. C'est le même chemin pour vos pouces par web. WhatsApp.